Bonjour Aliountine.
Bonjour.
Vous écrivez dans votre rapport, aujourd'hui, ce ne sont plus les coups d'État militaires qui font des morts, mais les troisièmes mandats. C'est cette question d'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire notamment et en Guinée, c'est ça qui vous inquiète le plus?
Absolument. Le coup d'État réparateur au Niger en 2009-2010, ça n'a fait aucun mort. Au Mali, le coup d'État a fait 4 morts. Mais quand le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire dit qu'il va participer à l'élection présidentielle pour un troisième mandat, il y a eu immédiatement des manifestations, des violences qui ont fait 26 morts, beaucoup de blessés et avec beaucoup d'opposants et d'activistes des droits humains qui sont aujourd'hui en prison. Et ça rappelle vraiment les vieux démons de la Côte d'Ivoire en 2010. Le risque de rechute, il est réel. Nous pensons qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il faut absolument reporter l'élection présidentielle et discuter, débattre du processus électoral qui est contesté. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il faut que les chefs d'État examinent la question du troisième mandat. Avec, par exemple, Alpha Condé en Guinée-Conakry. Depuis le début, quand on a planifié le référendum et les élections législatives et les manifestations, mais ça fait plus de 50 morts, des dizaines de personnes qui sont en prison. Je pense que c'est extrêmement grave pour que la CEDEAO et la communauté internationale commencent à opiner là-dessus pour créer les conditions d'une sanction pour des présidents qui sont des présidents dérégulateurs.
Donc justement, vous plaidez pour qu'il y ait un sommet de la CEDEAO, c'est ça? Un sommet qui soit dédié à la limitation des mandats présidentiels.
Il y avait un sommet en 2015 pour que la limitation de mandat soit inscrite dans le protocole additionnel sur la gouvernance et la démocratie. Il y avait deux pays qui étaient contre, c'était la Gambie et le Togo. Maintenant, je pense qu'il faudra aujourd'hui réinscrire dans l'agenda des sommets de la CEDEAO la question de la limitation de mandat et la régler pour de bon. Et moi, j'ai été extrêmement satisfait d'avoir entendu le président Bouhari interpeller ses collègues chefs d'État pour dire que nous autres, quand même leaders des États membres de l'Afrique de l'Ouest, nous devions respecter nos constitutions. Ça, c'est un bon début.
Sur cette question du troisième mandat, un mot sur le Sénégal, où ce débat agite également la classe politique, le débat sur un éventuel troisième mandat du président Macky Sall en 2024. Là, le président n'a pas dit oui, mais n'a pas dit non.
Moi, je peux comprendre le président avec son gouvernement et les ambitions qu'il y a au sein de son parti pour dire, écoutez, on travaille. Et que les gens qui ont envie de faire campagne, ils n'ont qu'à quitter mon gouvernement pour y aller. Cela dit, tous les présidents du Sénégal ont enlevé la limitation de mandat. Senghor l'a enlevé. Diouf, en 1999, il l'a enlevé, mais il a été battu par Wade en 2000. Wade l'a enlevé. Il a été battu aussi en 2012. Donc, le président Macky Sall n'a pas droit à l'erreur. Et également, son rôle historique aujourd'hui, c'est de respecter la limitation de mandat et de se l'appliquer à lui-même.
Les coups d'État sont plus sophistiqués en Afrique de l'Ouest, hein, c'est ce que vous écrivez dans le rapport. Il s'agit, on l'a dit, désormais de coups d'État électoraux ou constitutionnels. Pourtant, il y a eu ce coup d'État militaire au Mali le mois dernier, sachant que votre rapport a été rédigé avant cet événement. Pourquoi, selon vous, le régime d'Ibeka, d'Ibrahim Boubacar Keïta, s'est effondré si rapidement?
Quand même, dans les manifestations, qu'on le veuille ou non, l'imam a énuméré les problèmes. L'imam Diko, la malgouvernance, la corruption. Vous avez, comme je dis, la crise du suffrage universel. Les élections législatives, la manière dont ça s'est déroulé et contesté ont été un phénomène déclencheur. Le Mali, c'est un cas pour effectivement tirer les leçons de ce qui se passe quand effectivement vous n'avez pas le respect de l'état de droit. Et les gens ont perçu le coup d'État comme un coup d'État réparateur. Quand les gens vont dire, tiens, nous avons besoin de régime militaire, quand vous avez les gens qui ont confiance en un imam et non plus aux politiques, ça devrait amener les politiques, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir, à repenser la politique en Afrique.
Comment est-ce que vous voyez la suite des événements? Quelle peut être l'issue de la crise selon vous?
L'issue de la crise, c'est qu'il faut que la junte militaire cède le pouvoir dans les meilleurs délais. La solution, c'est la transition civile.
Alors le tableau que vous dressez dans ce rapport est assez sombre. Pourtant, vous restez quand même optimiste avec, je vous cite, de nouvelles formes de résistance et l'émergence de nouveaux acteurs. C'est la société civile, c'est ça qui fait maintenant office de contre-pouvoir à la place des parlements?
Écoutez, moi je pense que l'Afrique bouge avec sa jeunesse, extrêmement dynamique et souvent inspirée. Ça, c'est très important, qui arrive quand même à battre des dictateurs et des tyrans. On l'a vu en Gambie, Gambia Decided. On l'a vu ici avec le 23 juin. L'Irak a eu raison quand même en Algérie du long règne de Bouteflika. Donc, il y a aujourd'hui vraiment une nouvelle culture politique. C'est avec ces mouvements-là qu'il faut compter pour voir comment on peut changer positivement.
Merci Alun Tin.
C'est moi qui vous remercie.